RCF.
Personnalité hors norme, destin hors norme, Anne de Bretagne est une de ces femmes qui ont marqué l'histoire. Comtesse, duchesse, reine de France, cette femme extraordinaire vous fascine depuis longtemps. Claire Loher, bonjour.
Bonjour.
Vous lui consacrez une biographie intitulée Anne de Bretagne, duchesse et reine de France. C'est une biographie qui est parue aux éditions Fayard. Vous êtes agrégée d'histoire, vous êtes également conférencière. Claire Loher, on vous a récemment entendu sur RCF pour évoquer la Commune de Paris. Anne de Bretagne, ça n'est ni la même époque, ni le même type de sujet auquel vous êtes amenée à vous intéresser. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez cette femme? Et d'où vient l'intérêt que vous lui portez ?
Il se trouve que j'ai des attaches importantes en Bretagne, comme mon nom l'indique d'ailleurs, et c'est vrai que c'est un personnage auquel je m'intéresse plus ou moins depuis longtemps, jusqu'au jour où je me suis vraiment posé des questions sur sa vie, où j'ai cherché davantage, et là je me suis rendu compte qu'elle avait véritablement un destin hors du commun, puisque c'est une femme, et même c'est une jeune fille, au moment où elle recueille le pouvoir, un pouvoir auquel elle n'a pas droit normalement, et auquel elle va s'attacher, c'est-à-dire qu'elle va considérer qu'elle doit recueillir la couronne de son père alors que cela lui est interdit. Et je reconnais que cet aspect batailleur du personnage, pugnace, m'a beaucoup fascinée et intéressée.
Les Bretons restent attachés à cette femme? Quel lien est-ce qu'ils entretiennent avec elle?
Globalement, les Bretons restent très attachés à sa personne et en ont fait un personnage un peu emblématique de leur destin et de leur région, même si une partie d'entre eux conteste le fait qu'elle ait joué un rôle positif dans la mesure où, par son mariage, elle a entraîné, malgré elle, le rattachement de la Bretagne à la France.
Alors, elle est née à Nantes en 1477. De quelle famille est-elle issue?
Bien curieusement, Anne de Bretagne n'a pas d'attache bretonne, elle n'a pas de sang breton, si on veut le dire comme ça, puisque du côté de son père, donc François II, le dernier duc, on est originaire d'Île-de-France. Et du côté de sa mère, alors là, c'est encore plus exotique, on va dire, puisqu'elle est tout à fait espagnole. Sa mère est originaire des Pyrénées, sa grand-mère est Éléonore de Navarre. Donc, Anne, à proprement parler, sur le plan de la généalogie, n'est pas bretonne. En revanche, elle est née à Nantes, dans le château de Nantes, et elle devient duchesse de ce territoire.
Et elle est donc héritière de ce duché ?
Techniquement, elle n'est pas héritière parce qu'elle est une fille et que par le traité de Guérande de 1365, les filles ne peuvent pas hériter de la couronne. Néanmoins, le duc n'ayant pas de fils légitime, elle va de fait se retrouver confrontée au pouvoir. Va-t-elle réussir à prendre la couronne ? C'est un peu ça la question de son enfance.
On va y revenir. Alors, cette enfance, comment est-ce qu'elle se déroule et quel type d'éducation reçoit-elle ?
Tant que son père a l'espoir d'avoir un fils, elle est au second rang. Mais très rapidement, on se rend compte qu'il n'y a pas de garçon qui naît du mariage de ses parents. Et donc, elle devient progressivement l'héritière potentielle du duché. Et à ce moment-là, effectivement, l'éducation qu'elle va recevoir est une éducation qui doit lui permettre de prendre les rênes du pouvoir. Donc, c'est une éducation très complète. Elle est très cultivée. Elle sait lire et écrire, c'est pas forcément si évident à cette époque, surtout quand on est une femme. Elle connaît le français, qui est la langue de cour à cette époque, mais elle connaît aussi le latin, qui va lui permettre d'échanger des correspondances diplomatiques. Elle connaît quelques langues étrangères, un peu d'allemand, de l'espagnol bien sûr, puisque les espagnols sont dans son entourage, de l'anglais, et un peu de mathématiques également. Donc elle a une éducation extrêmement soignée, en plus de tout ce qu'on apprend à cette époque quand on est une grande aristocrate, à savoir la chasse, monter à cheval, danser bien sûr, broder également, ça fait partie de ses activités.
Elle a des frères et sœurs ?
Elle a une petite sœur qui n'est pas connue du tout, qui s'appelle Isabeau. Isabeau a 2 ans de moins que Anne de Bretagne et c'est aussi une fille, donc elle n'est pas héritière. Et elle va mourir assez rapidement à l'âge de 12 ans. Et puis elle a aussi des demi-frères et sœurs, puisque son père a de nombreuses aventures en dehors de son mariage légitime. Mais ses deux demi-frères et sa demi-sœur ne peuvent avoir, alors là techniquement, aucune prétention au trône de Bretagne.
Elle perd sa mère très jeune.
Oui, elle perd sa mère très jeune, Anne, puisque à l'âge de 7 ans, elle n'a plus de mère. Sa mère meurt, comme c'est le destin de beaucoup de femmes à cette époque. On meurt en couche énormément. Et d'une certaine manière, Anne sera d'ailleurs une survivante, puisqu'elle va beaucoup accoucher et ne mourra pas d'un accouchement. Néanmoins, effectivement, à l'âge de 7 ans, elle et la petite Isabeau se retrouvent orphelines de mère.
Elle passe toute son enfance à Nantes et dans les environs ?
Elle passe toute son enfance à Nantes, beaucoup dans le château, où elle joue d'ailleurs avec ses demi-frères et sœurs, qui sont très présents dans son entourage, et sa petite sœur aussi. Et elle se rend également dans un certain nombre de demeures des environs, des châteaux qui appartiennent à son père, ou l'hôtel particulier de sa gouvernante, qui s'appelle Françoise de Dinan, et qui est une baronne bretonne, une des plus grandes baronnes de ce duché.
J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée.
Claire Loer, je ne résiste pas à la tentation de vous demander d'expliquer ce choix musical qu'on vient d'entendre.
Cette chanson qui a été écrite par Gilles Servat dans les années 70, La Blanche Hermine, 1970. Gilles Servat, c'est un des grands chanteurs de Bretagne encore vivant. Cette chanson, les Bretons se la sont appropriée, un peu comme une espèce d'hymne qui résume un peu leur histoire, qui est une histoire d'affrontement avec la France et puis finalement de rattachement raisonné, on va dire, mais pas forcément de rattachement de cœur.
Alors ces affrontements et ce contexte de guerre, Anne l'a connu dès sa plus tendre enfance.
En effet, Anne est née dans une époque qui est une époque guerrière. Son père, qui veut absolument maintenir sa mainmise sur le duché de Bretagne contre le roi de France qui est à ses frontières, mène une guerre contre le roi Louis XI d'abord, contre le roi Charles VIII ensuite. Donc Anne baigne dans la guerre dès son enfance, en effet.
En quoi ça va la marquer ?
D'une part, Anne va être extrêmement prudente face aux puissants auxquels elle va avoir affaire toute sa vie, puisqu'elle sait que les rois avec lesquels elle se retrouve dans des réunions diplomatiques ou à travers des courriers ont toujours en vue d'essayer de mettre la main sur son territoire. Donc elle va toujours se méfier parce qu'elle a grandi dans cet univers de guerre. Et puis la deuxième chose, c'est que Anne n'a pas peur de la violence. C'est une femme de son époque qui vit dans des châteaux forts, barricadés, qui monte à cheval pour échapper à ses poursuivants, et qui va lever des armées, des mercenaires. C'est une époque extrêmement violente dont nous avons perdu le souvenir aujourd'hui, mais qui entraîne une certaine manière de vivre pour les hommes, mais aussi pour les femmes, surtout quand elles exercent le pouvoir.
Alors on y reviendra sûrement, mais là on est à une époque transitoire, c'est-à-dire qu'on est à la frontière entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance.
Oui, c'est une époque effectivement où les techniques de guerre changent, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'artillerie, on se bat un peu moins à l'arme blanche et de plus en plus au canon. Anne, par exemple, va faire acheter des canons pour protéger ses forteresses, que ça soit à Nantes ou que ça soit à Rennes, dans le cadre de la guerre contre la France.
Est-ce qu'on a des portraits d'elle ?
Nous avons très peu de portraits d'Anne de Bretagne. C'est une époque ancienne. Nous sommes à la fin du XVe siècle. Et à cette époque, on fait assez peu de portraits. On les fait sur papier, on les fait sur bois. Ce sont des matériaux qui ne durent pas forcément très longtemps. Mais bien sûr, nous en avons quelques-uns en tant que reine de France, puisque c'est un personnage très important. Et même, nous avons la chance d'en avoir un à l'âge de 14 ans, probablement au moment où elle épouse pour la première fois un roi. Elle est très jeune et c'est rare d'avoir des portraits de jeunes femmes à cette époque.
Revenons, Claire Loer, sur le problème que représente la naissance d'une fille à cette époque-là et lorsque un duché comme celui de la Bretagne est en jeu.
Les filles, généralement, ne sont pas héritières du pouvoir. Quand vous êtes seigneur d'un territoire, que vous devez lever les impôts en particulier, ou que vous devez protéger ce territoire en menant des armées, les femmes sont exclues, on va dire, de cet univers fiscal et militaire à la fois. Mais il se trouve que quand il n'y a pas d'héritier mâle, la question va se poser, parce que la légitimité à cette époque passe par le sang. On ne peut hériter que par le sang. Donc si un homme puissant n'a pas de fils, dans certains cas, les filles peuvent effectivement hériter de la puissance et du pouvoir, comme ça a été le cas par exemple d'Aliénor d'Aquitaine au XIIe siècle, avant Anne de Bretagne, qui est l'autre grand exemple de femme ayant hérité du pouvoir de son père.
Il n'est pas question que les fils, illégitime, disons, naturel du duc de Bretagne, hérite de ce duché.
Disons le mot, à l'époque on les appelle les grands bâtards, hein. C'est un terme qu'on utilise qui n'est pas péjoratif à cette époque. Ils sont reconnus en tant que fils du duc de Bretagne, que ce soit François d'Avaugour ou que ce soit Antoine d'Aulus, donc les deux fils qui sont nés hors mariage, mais le mariage légitime ne peut avoir été célébré que face à un prêtre, donc il est un mariage devant Dieu, et un enfant qui est né hors des liens du mariage n'a aucun droit sur une succession à cette époque.
Tout ça, bien sûr, sur fond, vous l'avez déjà dit, de guerre avec la France, qui est le grand rival, le grand ennemi.
La Bretagne, par sa configuration géographique, n'a qu'une frontière terrestre avec le royaume de France. Le reste de ses frontières, c'est un littoral. Donc, effectivement, la France pousse, le roi de France pousse sur cette frontière pour essayer, eh bien, petit à petit, de grignoter le territoire du duché de Bretagne. Et la guerre avec François II, entre François II et Louis XI, a déjà commencé en 1485. Donc, c'est une guerre qui dure depuis plusieurs années, quand Anne va recueillir le pouvoir.
Et pour le royaume de France, l'enjeu est de taille, parce que cette zone géographique est très convoitée et très intéressante.
Il faut bien comprendre que la Bretagne de cette époque est un territoire très riche. Ce n'est pas le territoire pauvre qu'elle est devenue par la suite au XIXe siècle. Nous sommes au XVe siècle et à cette époque, la Bretagne a plusieurs grandes richesses. Les produits de la mer, bien sûr, le poisson. Les produits de la terre, en particulier les textiles de lin et de chanvre, qui sont très importants, très utilisés à cette époque. Et puis surtout, sur son littoral, elle a du sel. Et le sel, c'est une des très très grandes richesses du Moyen Âge.
Claire Loewer, vous avez précédemment rappelé le contexte dans lequel naît et grandit Anne de Bretagne, un contexte très conflictuel, en fait un contexte de guerre entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Est-ce que la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier s'inscrit dans cette guerre qui voit s'affronter ces deux puissances ?
La bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, donc qui a lieu à l'été 1488, est un des grands tournants de l'histoire non seulement d'Anne de Bretagne, mais du duché de Bretagne, puisque c'est une immense défaite de la Bretagne, de François II, du duc François II, contre le roi de France. Et qu'à cette bataille, en particulier, toute une partie de l'aristocratie bretonne qui est présente va être décimée. Donc les grandes familles bretonnes vont perdre beaucoup de leurs chevaliers dans une guerre qui est encore une guerre médiévale. On se bat à cheval avec des épées, hein, dans la plupart des cas.
Et puis un traité va être signé lors de cette défaite qui va sceller en quelque sorte le sort de Anne de Bretagne et qui va avoir par la suite des conséquences très importantes.
C'est vrai que ce traité du Verger qui est signé à l'issue de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier a une clause principale qui peut nous paraître étonnante puisque ce n'est pas une clause ni territoriale ni militaire, c'est une clause matrimoniale. En effet, le roi de France exige de donner son accord pour le mariage de la fille du duc, c'est-à-dire la petite Anne qui a 11 ans à ce moment-là, et également pour sa petite sœur Isabeau qui a 2 ans de moins qu'elle. Donc le mariage d'Anne de Bretagne devient un enjeu entre la Bretagne et la France à partir de ce traité.
Et donc c'est bien sûr le roi de France qui impose cette condition, cette clause ?
Oui, c'est le roi de France qui impose cette condition parce qu'il veut avoir la main. Il sait que cette jeune fille représente un potentiel considérable pour la géopolitique européenne et il ne veut pas qu'elle soit mariée sans son consentement.
Cette année 1488 et ces mois-là d'été sont d'autant plus importants pour Anne que son père meurt quelques semaines plus tard, en septembre.
Oui, à l'issue de la bataille, François II, alors il y a des grosses chaleurs, hein, on est au mois d'août, au moment de la bataille, il est touché par une espèce comme ça de maladie, alors à l'époque on décrit toujours ça sous forme de fièvre, mais en réalité on ne sait pas vraiment ce que c'est. En tout cas, il est alité et il va agoniser pendant plusieurs semaines jusqu'à mourir au mois de septembre, en présence de sa fille aînée, puisque c'est elle qui va recueillir sa succession et qu'à l'époque, les grands personnages meurent en public et doivent transmettre au moment de leur mort le flambeau au personnage suivant.
Elle a 11 ans ?
Elle a 11 ans quand elle est totalement orpheline, puisque sa mère est déjà morte et que son père meurt devant elle.
Alors qu'est-ce qu'elle devient, cette petite fille ?
C'est bien toute la question qui va se poser à ce moment-là, puisque normalement, elle n'a pas le droit d'hériter de la Bretagne en tant que fille. Néanmoins, son père l'a désignée auprès des grands barons bretons comme son héritière légitime car il ne veut pas que la Bretagne tombe dans l'escarcelle de la France. Il a même fait promettre à sa fille de ne pas assujettir la Bretagne à la France quand elle sera devenue duchesse. Et donc là, la question se pose, que va-t-elle faire ? Elle n'a que 11 ans. Quelle décision va-t-elle prendre face à un roi de France qui est un des plus grands souverains européens, un des plus puissants ? Eh bien, à la surprise de toute l'Europe, Anne de Bretagne décide de continuer la guerre contre le roi de France au lieu de bien sagement lui obéir, être marié par lui, voire être envoyé dans un couvent, ce qui était aussi une possibilité.
Le roi de France, on ne l'a encore pas cité, c'est Charles VIII.
À ce moment-là, oui, le roi de France, c'est Charles VIII, puisque Louis XI, son père, est mort. Et donc, c'est un souverain qui est assez jeune, puisqu'il a 7 ans de plus que la petite duchesse. Donc, à ce moment-là, il a 18 ans, Charles VIII.
Mais vous dites, elle décide de poursuivre le combat. On imagine qu'elle est entourée, qu'elle est conseillée, qu'elle, du haut de ses 11 ans, n'est pas en mesure de prendre ce genre de décision.
Bien sûr, autour d'Anne de Bretagne, il y a des conseillers, et en particulier le chancelier Montauban, qui était le chancelier de son père et qu'elle va garder précieusement parce qu'il connaît toutes les arcanes de la politique bretonne. Mais il faut quand même bien se rendre compte que c'est une jeune fille qui a aussi reçu l'éducation du pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a assisté à des réunions. Son père l'a très tôt associée aux décisions qu'il prenait, de manière à ce qu'elle puisse assurer cette continuité, à ce qu'elle ait cette intelligence politique.
Elle a acquis tout ça.
Elle a acquis déjà une grande partie et elle a également, comme ses enfants appelés à gouverner, elle a le sens de sa charge et le sens de ses devoirs. C'est une chose qui nous est assez étrangère aujourd'hui. Mais il faut bien savoir que ces enfants-là, comme Louis XIV plusieurs siècles après, sont élevés dès leur plus jeune âge, hein, Louis XIV à l'âge de 5 ans, dans l'idée qu'ils seront un jour des souverains et qu'ils doivent assumer les charges du pouvoir.
Quand vous dites qu'elle poursuit la guerre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Ça veut dire concrètement qu'elle refuse de se mettre sous la protection du roi de France qui espère en fait qu'elle va lui obéir et qu'elle cherche des alliés pour contrer les batailles qui vont se produire après la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. En particulier,
et elle les trouve.
Elle trouve des alliances avec l'Angleterre.
Cette bataille de Saint-Aubin ne met pas un terme à la guerre ?
Cette bataille ne met pas un terme à la guerre. Néanmoins, elle met un terme à la saison de guerre, car à cette époque, on ne fait la guerre qu'en été. C'est-à-dire que là, nous sommes au mois de septembre. Chacun va rentrer chez soi, va soigner ses chevaux, faire forger de nouvelles armes. Mais on sait qu'au printemps suivant, la guerre va recommencer entre la Bretagne et la France.
Se teinte, s'ils sont couleur en la nuit qui s'éteint, viendront d'opale le lendemain, reviendront des siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore. Si mort à mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que poudre de corps, dorme son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore. Si moribonds sont les rois en ripaille, si leurs prisons sont des cas.
Un mot, Claire Loewer, sur ce qu'on est en train d'écouter là ?
C'est une chanson qui est une des plus connues du groupe Trianne. Trianne, c'est un des grands groupes de ce qu'on appelle le revival breton dans les années 1970, quand les Bretons se sont à nouveau emparés de leur culture et ont montré qu'ils en étaient fiers. Trianne a été un des porte-drapeaux de cette culture bretonnante, celtisante.
Donc on est plongé avec vous dans cette culture et dans ces très belles mélodies. Claire Loewer, à l'occasion, je le rappelle, de la publication de la biographie que vous venez d'écrire, hein, sur Anne de Bretagne, duchesse et reine de France, et qui paraît chez Fayard. Alors, elle fait appel à des alliés qui viennent en effet lui donner main forte. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, elle a 11 ans. Elle se tourne vers les Anglais, les Allemands, les Espagnols. Qu'est-ce que ça change dans le cours de cette guerre qui fait rage entre la Bretagne et les troupes françaises ?
La première chose, c'est que le roi de France est très surpris que cette petite duchesse, âgée de 11 ans, lui résiste. Et elle va acquérir de cette manière une stature particulière sur l'échiquier européen. On va se dire, tiens, la duchesse de Bretagne est quelqu'un qui a du caractère.
Elle se forge une réputation.
Oui, on peut dire qu'elle se forge une réputation. De l'autre côté, comme elle est obligée de faire appel à des mercenaires étrangers et à les payer, elle va s'endetter énormément pour faire la guerre. Et c'est peut-être ce qui explique que la guerre ne va durer finalement que 3 ans et demi. Parce qu'il faut payer tous ces souverains, tous ces soldats. Elle est même obligée de laisser les Anglais occuper certains ports de sa côte, comme Saint-Malo, par exemple, ce qui est très dangereux pour elle, parce que laisser occuper son territoire, on n'est pas sûr qu'ensuite ces Anglais repartiront, une fois la guerre finie.
Assez rapidement, finalement, intervient de nouveau la question d'un mariage. la question qui reste un enjeu majeur se pose en quels termes ?
Anne considère qu'à un moment, il faudra bien qu'elle prenne époux. Il n'y a quasiment pas d'exemple de femme qui reste non mariée à cette époque. Et pour elle, un époux doit être un allié militaire. Il doit avoir l'avantage de lui apporter des armées, des financements, ce dont elle a besoin pour faire la guerre. Et c'est pourquoi son choix se porte dans un premier temps sur Maximilien d'Autriche, qui est un roi de guerre, qui a remporté de nombreuses batailles et qui est un roi opulent parce qu'il a des territoires très importants au centre de l'Europe. Donc, une négociation est entreprise et un mariage par procuration a lieu entre Anne de Bretagne et Maximilien d'Autriche, c'est le premier époux d'Anne.
On est en quelle année là ?
Nous sommes en 1490, au mois de décembre, au moment de ce mariage par procuration.
On se souvient que le traité des Vergers avait imposé que le roi de France ait un droit de regard sur l'époux qu'elle prendrait.
Et Anne a balayé ce traité des Vergers d'un revers de main, effectivement.
Comment est-ce que le roi de France Charles VIII réagit lorsqu'il apprend qu'elle n'a pas respecté le traité ?
Il le prend très très mal, c'est-à-dire qu'il considère qu'elle n'a pas, elle avait engagé sa parole ou son père avait engagé sa parole, il y a une continuité dynastique de toute façon. Donc non seulement elle lui fait la guerre, mais en plus c'est une espèce de camouflet à la face de l'Europe. Cette jeune fille prétend se marier avec qui elle l'entend et avec quelqu'un qui va faire la guerre au roi de France également. Donc c'est un point très ennuyeux finalement pour Charles VIII, qui se retrouve de fait affronté à Maximilien du fait de ce mariage.
Les deux jeunes gens se rencontrent un jour ou l'autre ou pas du tout ?
Lesquels ?
Ah pardon, Anne de Bretagne et Maximilien.
Alors Maximilien est loin d'être jeune puisque il a déjà été marié, il a deux très grands enfants. Pour lui, ça serait donc une seconde union, une union qui peut être intéressante parce que ça lui permet d'être présent dans l'ouest de l'Europe, donc il doit avoir 30 ans de plus qu'Anne. Et non seulement il ne se rencontre pas puisque c'est un mariage par procuration, il se trouve que Maximilien fait la guerre à ce moment-là dans l'est de l'Europe et qu'il n'a pas le temps de venir épouser sa femme, aussi amusant que ça puisse paraître. Et comme ce mariage sera rompu par la suite, eh bien, ils ne se rencontreront jamais. Voilà deux époux qui ne se sont jamais vus.
Et donc Charles VIII, lui, garde bien en tête cette situation et a d'autres projets, et notamment celui de l'épouser, d'épouser cette jeune fille.
C'est une hypothèse, effectivement, qui est sur la table depuis longtemps, puisque le père de Charles VIII y avait déjà pensé. Il s'était dit, finalement, une manière de mettre fin à la guerre entre Bretagne et France serait que Charles VIII épouse la petite Anne. Seulement, Charles VIII est déjà fiancé, parce que les alliances matrimoniales sont des alliances politiques, et en théorie, Charles VIII doit épouser l'héritière de Bourgogne, à laquelle il est fiancé depuis l'enfance.
Et qui ne lui plaît que très peu.
Eh bien, à un moment, il va devoir choisir. Est-ce qu'il prend la dot de la bourguignonne ou est-ce qu'il prend la dot de la bretonne ? Parce que, on va dire, la question de la personne se pose assez peu. C'est la question politique qui se pose dans ces mariages princiers.
Alors, on a vu avec vous, Claire Loher, que ce mariage par procuration, mais mariage quand même entre Anne de Bretagne et Maximilien d'Autriche, déplaît très fortement au roi de France, Charles VIII, qui lui-même aurait bien envie de l'épouser, cette jeune fille, qui représente quand même un duché qu'il convoite depuis longtemps. Est-ce qu'on lui demande son avis à elle ?
Anne fait vraiment partie des négociations, c'est-à-dire que oui, elle participe aux réunions, elle discute avec ses plénipotentiaires, avec ses diplomates pour savoir quelle sera la meilleure solution pour la Bretagne. Le mariage avec Maximilien, pour elle, présente cet avantage d'avoir un époux bon guerrier et qui peut financer sa guerre, d'une part, mais aussi le fait d'avoir un époux qui est très éloigné du duché et donc qui laissera finalement les Bretons se gouverner par eux-mêmes sans être trop intrusifs dans leur politique ducale. Le roi de France est une option qui se présente également. Anne y a pensé, bien sûr, puisque c'est une option à laquelle l'Europe, l'ensemble des souverains européens, pensent depuis plusieurs années. Il faut savoir que dans son enfance, Anne a été fiancée un nombre de fois considérable, à peu près à tous les souverains européens, au gré des avantages que son père espérait en tirer.
Et puis, au bout du compte, c'est cette option-là qu'elle finit par choisir. Qu'est-ce qui fait que la balance penche, au bout du compte, plutôt de ce côté ?
La guerre entre la Bretagne et la France est très dévastatrice pour la Bretagne, puisque tous les ans, donc du printemps à l'automne, les armées du roi de France entre sur le territoire breton, ravage les champs, ravage les villages, brûle les villages, et qu'une partie de, d'ailleurs des petites villes ou des villages bretons disparaissent de la carte purement et simplement. Les soldats de l'époque sont terribles, ce sont des soudards hein, qui pillent, qui tuent les paysans. Et cette guerre meurtrière qui dure depuis trop d'années, on sait qu'on pourrait finalement lui donner une fin par ce mariage qui apparaîtrait comme un mariage heureux pour tous.
Et en même temps, c'est risqué. Parce que c'est finalement céder ou risquer de céder la Bretagne à la France.
Pour ne pas céder la Bretagne à la France, il faut donc un contrat de mariage qui va être rondement ficelé par les représentants de la Bretagne qui sont bien sûr très présents au moment des négociations, de manière à faire en sorte que la Bretagne ne devienne pas purement et simplement une province française au moment du mariage.
Une parenthèse pour dire que l'un et l'autre étaient engagés. Techniquement, comment on fait pour les désengager? Les alliances sont rompues
Alors du côté de Anne, le mariage a eu lieu par procuration, il n'y a pas eu consommation du mariage, consommation charnelle qui est le point important, et même l'époux ne s'est pas présenté en personne. Donc on va considérer que ce rite de mariage par procuration qui a eu lieu, qui est un rite de type germanique, parce que Maximilien est empereur d'Autriche, est un rite qui n'est pas spécifiquement breton, et donc que ce mariage n'a pas les spécificités d'un véritable mariage tel qu'on le pratique en Bretagne.
Il n'est donc pas valide.
Voilà, on va dire ça comme ça. Pour Anne, c'est quand même compliqué parce que c'est une femme très pieuse et elle s'est engagée devant Dieu. Elle a prêté serment à son époux. Donc, ça ne va pas être si simple pour elle de considérer que ce mariage n'est pas valide.
Et du côté de Charles VIII ?
Du côté de Charles VIII, il est fiancé donc depuis l'âge de 13 ans à la petite Marguerite d'Autriche, qui a une dizaine d'années de moins que lui. Ils ont été également mariés devant Dieu, mais comme c'était des enfants, le mariage n'a pas non plus été consommé. Et donc, il va y avoir une forme de répudiation. Marguerite est renvoyée à son père, ce qui est un camouflet terrible pour elle. Marguerite, qui se considérait comme reine de France depuis l'enfance, ne le sera jamais.
Est-ce que Anne de Bretagne et Charles VIII se connaissent bien ?
Ils ne se sont pas rencontrés. Ce sont toujours des représentants qui se sont vus et qui ont rapporté dans chaque camp les conditions du camp d'en face. Donc, leur première rencontre a lieu au mois de novembre 1491 dans la ville de Rennes, où Anne invite le roi de France à venir lui rendre visite alors qu'ils sont en guerre officiellement. Donc c'est une situation assez étrange. Hein,
en vue du mariage.
Oui, c'est en vue du mariage. On est déjà très avancé dans la négociation et donc on estime qu'il faut une rencontre entre les deux souverains, ce qui est assez intéressant d'ailleurs parce qu'à l'époque, en général, on marie les jeunes filles sans leur demander leur avis. Or, Anne et Charles vont se rencontrer avant le mariage de manière à estimer si c'est la bonne option.
Novembre 91.
Oui, novembre 91 à Rennes.
Et donc ils se marient en décembre.
Et ils se marient en décembre parce que, eh bien, quand ils se rencontrent, à la surprise de tout le monde, ils s'entendent plutôt bien. En fait, ils sont jeunes tous les deux. Elle a 14 ans, il lui a 21 ans. Et ils partagent en commun d'avoir hérité du pouvoir très jeune et entouré de personnes qui les empêchent un petit peu de gouverner à leur guise. Donc en fait, ils se retrouvent assez vite sur le terrain de la conversation, du pouvoir, de ce cercle de vieux barbons qui les entoure. Et ils sont assez complices finalement.
Anne de Bretagne et le roi de France Charles VIII se marient donc en décembre 1491. En février, elle est couronnée reine de France. Comment se passent ensuite les relations entre le royaume de France et le duché? Est-ce que cette union réussit à créer un espèce de point d'équilibre?
Charles VIII va rapidement considérer qu'il doit gouverner la Bretagne. Anne est encore très jeune à ce moment-là. Et une fois devenue reine de France, son objectif à elle n'est plus véritablement de gouverner la Bretagne. Son objectif, c'est de donner un héritier au trône de France. Elle est entrée dans une autre dimension. Elle est devenue reine.
Et c'est ce qu'on attend d'elle.
Et c'est ce qu'on attend d'elle. Et d'une certaine manière, elle est loyale à ce serment qu'elle a fait. Elle a pris époux et donc elle doit lui donner un fils pour régner sur la France.
Ça veut dire qu'elle quitte la Bretagne ? Elle va s'installer à Paris ?
Anne quitte la Bretagne, mais à cette époque, les rois de France ne sont pas à Paris. Ils sont généralement dans le Val-de-Loire. Donc Anne va vivre beaucoup entre Plessis-les-Tours, Amboise, dans les différents châteaux du roi. Et puis également à Lyon, puisque Lyon va être la base arrière des guerres d'Italie que Charles VIII décide d'entreprendre.
Elle s'éloigne de sa terre natale et elle laisse en quelque sorte son mari, roi de France, gérer cette région qui désormais n'est plus sa priorité à elle.
Charles VIII nomme un chancelier en Bretagne qui est à sa main, comme on dit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lui obéit. Et donc effectivement, c'est la France qui, pendant ce premier mariage d'Anne, va véritablement destiner au gouverner le duché. Les grandes Bretagnes sont quand même présentes.
Qu'est-ce que vous appelez les grandes Bretagnes ?
Alors les grands, ce sont les grands personnages, les barons. À l'époque, les souverains ne gouvernent pas seuls, ni en France, ni en Bretagne. Le roi n'est pas seul à prendre les décisions. Il a autour de lui un certain nombre de grands personnages. C'est le cas dans le royaume de France, c'est le cas en Bretagne. Les barons doivent donner leur avis, en particulier en matière fiscale. Quand on décide de lever un nouvel impôt, il faut que les grands personnages de Bretagne donnent leur accord.
Et est-ce que des décisions sont prises qui sont imposées d'une certaine manière aux Bretons sans qu'ils aient véritablement leur mot à dire ?
Il n'y a pas de décision négative pour la Bretagne dans cette période, d'autant que Anne a très finement négocié une clause très très importante pour eux, qui est que les Bretons ne paieront jamais la gabelle. La gabelle, c'est l'impôt sur le sel à l'époque. Et c'est un des impôts les plus importants et les plus impopulaires du royaume de France. Comme la Bretagne est productrice de sel, les Bretons ne payent pas la gabelle. Et donc, à partir du moment où cette négociation a été bien menée au départ, finalement, le chancelier se comporte de manière convenable, on va dire, avec cette région.
Donc, on peut dire que les Bretons gardent un certain nombre de privilèges.
Ils ont ce privilège. Ne pas payer la gabelle est un énorme privilège, d'ailleurs, face aux autres populations du royaume de France. Oui.
Alors, ce dont on attend de Anne de Bretagne, à savoir qu'elle donne un héritier au roi de France, eh bien, est-ce que ça se produit ? Est-ce qu'elle a un ou des fils ?
Anne va accoucher d'un premier fils 10 mois après son mariage, donc le petit Charles Orlan, qui est un garçon, c'est formidable, parce que d'une part, le roi de France a un héritier, et d'autre part, Anne, qui n'était que l'épouse du roi jusqu'à présent, devient la mère du futur roi. Donc ça lui donne une importance à la cour de France tout à fait considérable. En tant que reine-mère, elle acquiert véritablement une stature de premier plan. Le petit Charles Orlan est une bénédiction pour eux deux.
D'autres enfants vont naître ?
D'autres enfants vont naître et c'est là que commence la litanie, on va dire, des grossesses malheureuses de la reine Anne. Au total, dans sa vie, elle donnera naissance à 14 enfants et sur ces 14 enfants, seuls 2 vont survivre, y compris d'ailleurs le petit Charles Orlan, le premier-né, va mourir à l'âge de 3 ans de la rougeole. Les maladies infantiles sont très très courantes à cette époque, elles déciment les enfants.
Et puis, toujours dans cette logique de mort très prématurée, eh bien, le roi lui-même, Charles VIII, va mourir. Mais alors lui, dans des circonstances qui pourraient prêter à sourire si finalement la fin n'avait pas été aussi tragique, quoi.
La mort du roi de France est une surprise totale. En effet, Charles VIII a 28 ans au moment où les faits se produisent. Il est donc marié avec Anne depuis 7 ans. Ils ont eu de nombreux enfants qui tous sont morts les uns après les autres, mais néanmoins c'est un couple jeune. Et Anne d'ailleurs a survécu à toutes ses grossesses et à tous ses accouchements, ce qui là aussi prouve qu'elle est robuste physiquement, parce qu'à l'époque on meurt beaucoup en couches. Et ils sont tous les deux au château d'Amboise. Lorsqu'ils décident d'aller se changer un peu les idées, se distraire et Charles veut aller faire une partie de jeu de paume. Donc il emmène Anne sur une coursive, mais le château est en travaux. Il se cogne la tête, il est étourdi. On le couche au sol et il ne se relèvera pas. Charles VIII va mourir en 1498 à l'âge de 27 ans.
Donc on suppose qu'il meurt d'un traumatisme crânien, quelque chose de ce genre-là.
Probablement. C'est assez fulgurant, c'est-à-dire que c'est véritablement une surprise pour tout le royaume. Ce roi était jeune, il était très populaire, il avait remporté des victoires en Italie. Donc on supposait que son règne allait être très long. C'est un bouleversement de l'histoire de France.
Même si c'est un mariage arrangé, est-ce que Anne est affectée par cette mort ?
C'est très difficile de savoir quels ont été ses sentiments puisqu'elle n'a laissé aucun écrit d'ordre intime. Nous n'avons que des écrits politiques de Anne. Ce qui est certain, c'est que sa position à la cour devient incroyablement fragile puisqu'elle n'a pas d'enfant vivant. Donc elle n'est plus reine-mère et elle n'est plus la femme du roi.
Cette jeune reine, Claire Lauer, désormais veuve, sans héritier, dont vous avez dit que la situation et la position est du coup très fragile. Qu'est-ce qu'elle devient à partir du moment où Charles VIII eh bien, n'est plus là et où elle pourrait être écartée du royaume de France assez facilement?
Il se trouve qu'au moment de son mariage avec Charles VIII, Anne avait négocié une clause dont tout le monde supposait qu'elle ne serait jamais appliquée. Cette clause consistait à épouser le roi suivant en cas de décès de son époux. Et tout le monde pensait en fait que c'était Anne qui allait mourir avant Charles VIII, puisqu'étant femme, elle mourrait en couche probablement au cours d'un de ses nombreux accouchements. Elle devient veuve et donc là, en théorie, c'est cette clause qui doit s'appliquer. Anne doit épouser le nouveau roi, Louis XII.
Et c'est ce qui se produit.
C'est effectivement ce qui va se produire, mais ça n'était pas forcément évident, parce que si Anne a signé cette clause qui consiste à épouser le nouveau roi, lui, n'a rien signé du tout. C'était Charles VIII qui avait signé le traité. Donc est-ce que le nouveau roi va appliquer ce traité qui avait été négocié avant lui? C'est d'autant plus compliqué qu'il est lui-même marié.
Alors, qu'est-ce qui fait que, eh bien, c'est au bout du compte ce qui se produit, alors que tout aurait laissé penser que ça ne s'appliquerait jamais, quoi?
Louis XII est marié à ce moment-là, au moment où il monte sur le trône, en tant qu'héritier indirect du trône, il n'est pas le fils du roi. Il est marié avec Jeanne de France depuis plusieurs années. Jeanne de France, c'est une femme dont, alors le terme qu'on utilise à l'époque n'est pas très élégant pour nous, on dit qu'elle est contrefaite. Contrefaite, ça veut dire probablement dans les textes de cette époque, qu'elle devait être handicapée, peut-être bossue, on ne sait pas trop. En tout cas, le mariage a été consommé et n'a donné naissance à aucun enfant. Ne pas avoir d'enfant quand on est roi de France, c'est impossible, c'est compliqué, il faut assurer l'avenir dynastique. Donc pour Louis XII, la priorité c'est de se débarrasser de Jeanne de France, c'est-à-dire de la répudier. Ce qu'il va faire en organisant un jugement de sa femme et en considérant qu'elle n'est pas à la hauteur du titre de reine.
C'est ainsi que la voie est libre pour épouser Anne de Bretagne.
Oui, dès que Louis XII a répudié Jeanne, très rapidement, non seulement il épouse Anne, mais fait encore plus insigne, il va aller l'épouser dans son château à elle. C'est-à-dire que comme elle est retournée à Nantes, il se rend sur le territoire de Bretagne et il épouse Anne dans sa maison à elle, ce qui montre l'importance qu'elle a prise pour lui.
Il y a une stratégie dans cette décision ou...
Pour Louis XII, le fait d'épouser Anne, c'est maintenir la paix avec la Bretagne, c'est maintenir la situation antérieure. Et le fait de se rendre chez elle, de faire le trajet jusque chez elle, c'est montrer qu'il veut, il désire ce mariage. C'est lui qui vient la chercher.
Qu'est-ce qui fait qu'il ne l'écarte pas, finalement?
Il n'est pas un héritier direct au trône de France, puisqu'il n'est pas fils de roi. Le fait d'épouser une femme qui est déjà reine, qui a déjà été reine pendant de nombreuses années, qui est connue des sujets du royaume de France comme la reine, d'une certaine manière, il va bénéficier de cette aura de royauté. En épousant une reine, il est un peu plus roi. Ça, c'est important. Et puis, l'autre élément, c'est qu'il connaît Anne de Bretagne. Il la connaît très, très bien, puisqu'il a vécu à la cour de Nantes quand il était jeune. Il a connu Anne enfant. Il sait son caractère, qui n'est pas forcément un très bon caractère, mais qui, en tout cas, est un caractère propre à gouverner. Et il sait qu'elle est capable d'être une très grande reine. Elle ne l'a pas énormément été sous Charles VIII parce qu'elle a été tenue en lisière, mais il sait que s'il lui donne le pouvoir, s'il lui donne la capacité à gouverner, en particulier pendant ses absences, elle sera une très grande reine. Et c'est effectivement ce qui va se produire.
Et puis elle a mûri.
Elle a mûri, oui, elle a 21 ans maintenant. Elle est effectivement beaucoup plus capable de gouverner encore. Et puis également, autre élément, elle a donné naissance à des enfants. Même s'ils sont tous morts, on sait qu'elle peut enfanter. Et ça, c'est très important aussi.
Quand vous dites que c'est une grande reine, que ce serait une grande reine, sur quel plan ?
C'est une femme qui est une fine politique. En réalité, elle est tout à fait capable de négocier. C'est une grande travailleuse. Elle travaille vraiment ses dossiers. Elle cherche à comprendre. Elle rencontre les édiles quand elle va dans une ville. Par exemple, dans la ville de Lyon, elle s'est rendue compte que les impôts qui servaient à maintenir les berges pour la circulation, la bonne circulation des bateaux sur la Saône, ces impôts ont été détournés. Donc elle va les remettre dans la bonne caisse de manière à ce qu'on puisse à nouveau entretenir les chemins de halage et favoriser le commerce à Lyon.
Elle a une autorité.
C'est une femme qui a une autorité naturelle, c'est certain. Elle en impose.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une femme sensible aux artistes, à la création? Est-ce que c'est une forme de mécène?
De ce côté aussi, Anne a reçu une éducation hors norme. Elle est musicienne personnellement, elle joue du luth, elle s'est versifiée. Et effectivement, elle va s'entourer dans les cours du Val-de-Loire, où elle se trouve à Amboise, puis à Blois, d'un certain nombre d'artistes, des musiciens, des poètes. Et également, elle fait faire, elle commande un certain nombre de livres avec des enluminures qui sont parmi les plus beaux de son époque. Thank you.
parle aussi beaucoup de sa bibliothèque qui, paraît-il, était particulièrement fournie pour l'époque.
Oui, Anne avait plus d'un millier de volumes, ce qui est beaucoup à une époque où la plupart des livres sont encore des manuscrits écrits à la main, donc c'est très très long de recopier un livre. Il commence à y avoir quelques livres imprimés, mais il n'y en a pas dans sa bibliothèque, et ça révèle certainement un trait de personnalité. Anne n'aime pas beaucoup tout ce qui est moderne, tout ce qui est nouveau. Elle est très attachée à la tradition.
Où vit-elle essentiellement? Vous avez parlé d'Amboise et du Val-de-Loire, mais est-ce qu'elle continue de séjourner à Nantes notamment ou à Rennes?
Elle se rend très peu en Bretagne pendant ces deux règnes. Elle est essentiellement dans le Val-de-Loire et à chaque fois dans le château préféré de son époux. Charles VIII était né à Amboise et c'est pourquoi elle passait beaucoup de temps à Amboise. Louis XII est né à Blois et donc le château de Blois, ça sera vraiment sa demeure dans la deuxième partie de sa vie.
Alors parlons des enfants maintenant. De sa première union, aucun enfant n'a survécu. De cette deuxième union avec Louis XII, si.
Elle va effectivement donner naissance rapidement. 9 mois après son mariage, elle donne naissance à une fille. Alors c'est un problème, puisque en France, il est bien clair que la loi salique interdit aux filles de monter sur le trône. Là, il ne peut pas y avoir d'exception. Cette première fille va porter un prénom d'ailleurs qui aurait pu être un prénom de garçon, puisqu'elle s'appelle Claude. C'est la reine Claude, celle qui met tellement les prunes, les petites reines Claude. Claude, c'est l'enfant que Anne va avoir quasi pour fille unique pendant plusieurs années, puisque tous les enfants suivants vont mourir. Et le deuxième enfant qui va naître 10 ans après Claude, elle s'appelle Renée, donc elle aussi, elle a un prénom de garçon, c'est quand même assez intéressant, on va dire. Et entre deux, tous les enfants meurent. La petite Renée est née 3 ans avant la mort de sa mère, donc on peut dire que Anne ne l'a quasiment pas connue.
Donc c'est une grande déception de ne pas avoir de garçon.
C'est une très très grande déception et Anne et Louis XII d'ailleurs font des pèlerinages en grand nombre pour appeler sur eux la bénédiction de Dieu pour avoir un fils. C'est très important pour le royaume et s'ils n'ont pas de fils, ils savent que par le jeu de la dévolution de la couronne, ce sera un certain François d'Angoulême qui deviendra roi après Louis XII. Ce François d'Angoulême, ça sera François Ier.
Qu'est-ce qu'on peut dire du couple qu'ils forment? Anne de Bretagne et Louis XII.
C'est un couple extrêmement équilibré, en ce sens où les deux époux ont le sens du devoir, qu'ils ont confiance l'un dans l'autre, il y a une forme d'estime mutuelle entre ces deux époux, et que Louis XII en particulier sait qu'il peut laisser les affaires courantes à sa femme quand il part à l'étranger, quand il part guerroyer, ce qui est une forme pour lui d'être très rassuré par cette épouse qui est tout à fait à la hauteur du rôle qu'elle endosse. Par ailleurs, il semblerait qu'il y ait une forme d'affection entre eux, d'après les témoins de l'époque, il semblerait que ce soit un mariage plutôt heureux, malgré la disparition des enfants, qui est un souci permanent, bien sûr.
Elle voyage ?
Anne voyage pour gouverner. Elle se rend dans les différentes villes du royaume, là où on l'appelle. Ça fait partie des attributions des souverains de faire ce qu'on appelle les entrées dans les villes, donc d'être reçus par la bourgeoisie, par les notables, de manière à montrer qu'ils sont présents, qu'ils écoutent leur peuple et qu'ils assurent une forme de pouvoir à l'écoute de leurs sujets.
Comment est-ce qu'elle est considérée en Bretagne, dans ce duché, qu'elle a un peu délaissé finalement?
Il faut bien voir qu'à cette époque, le souverain n'est pas beaucoup visible. Donc en fait, le souverain, on va peut-être le voir une fois dans sa vie, quand on a la chance d'être dans une ville où il rend une visite. Donc ne pas voir le souverain n'est pas quelque chose d'étrange. C'est la norme. Ce qui est rare, c'est de le voir. Et le fait, pour les Bretons, d'avoir une reine bretonne est pour eux une immense fierté. Ils ont l'oreille de la cour, c'est-à-dire que les Bretons peuvent parler à l'oreille de la reine. Et ça, c'est énorme pour eux. Donc le fait qu'elle ne vienne pas en Bretagne n'est pas un problème. Et le fait qu'elle soit bretonne est un avantage très très important pour le duché.
Et quand vous dites que les Bretons ont l'oreille de la reine, c'est une réalité. Elle est entourée de barons, de conseillers plutôt bretons.
Elle a quelques conseillers bretons autour d'elle. Montauban va lui rester fidèle toute sa vie, par exemple. Et elle a également une suite de dames bretonnes autour d'elle. Elle fait choisir dans les familles de bonne naissance, comme on dit à l'époque, les jeunes filles un peu impécunieuses, parce qu'on peut être noble mais pauvre. Et elle leur donne une éducation à la cour. Et surtout, elle leur fait épouser des très bons partis, ce qui va permettre à toute cette génération de familles bretonnes d'être alliée à toutes les grandes familles d'Europe. Et puis, elle a aussi ce qu'on appelle la garde des 100 bretons, c'est-à-dire ces 100 jeunes hommes qui sortent avec elle, dans leur livrée, dans leur uniforme blanc et noir, et qui la font immédiatement identifier comme une reine bretonne.
Quelle langue est-ce qu'elle parle ?
Anne a toujours parlé le français, puisque c'est la langue de cour, c'est la langue qu'elle a apprise dans le château de Nantes, c'est la langue de toute l'aristocratie, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays européens. La question est, est-ce qu'elle parle breton ? Elle a eu une nourrice dans son enfance, puisque les femmes de l'aristocratie ne nourrissent pas leurs enfants elles-mêmes. Cette nourrice était bretonne, mais elle était bretonne de Rennes. Et à Rennes, on ne parle pas le breton, on parle le gallo, qui est une espèce de vieux français matiné de mots celtiques. Donc, je pense, ça paraît logique, Anne ne devait pas parler breton.
Claire Loewer, au bout du compte, l'union entre Anne de Bretagne et Louis XII, est-ce qu'elle a véritablement mis un terme aux guerres entre le royaume de France et le duché de Bretagne ?
À partir du moment où Anne épouse un roi de France, la guerre est terminée entre le duché de Bretagne et le royaume de France. C'est-à-dire que la paix revient et avec elle, la prospérité. On peut à nouveau cultiver les champs de manière sûre. Les paysans réinvestissent les villages. On fait à nouveau des enfants qui ne vont pas mourir. Donc, il y a vraiment une forme de prospérité qui revient dans l'ensemble du duché. La guerre, c'est fini.
Elle aura amené la paix en épousant Louis XII.
C'est un mariage, effectivement, qui a apporté beaucoup de paix sur la région qu'on appelle les Marches de Bretagne. Hein, toute cette région qui englobe également, d'ailleurs, la partie de Fougères, de Vitré, et qui va un petit peu jusqu'à la Mayenne aussi.
Elle meurt en 1514. Elle a 37 ans. C'est quelque chose d'assez classique à cette époque-là.
Pour l'époque, Anne apparaît comme une vieille femme, effectivement, au moment de sa mort. Elle a été mariée, je le rappelle, à l'âge de 14 ans. Elle a accouché 14 fois dans sa vie. Donc, quand elle arrive à l'âge de 37 ans, elle est fatiguée, elle est percluse de douleurs, de maladies. Elle avait probablement une tuberculose osseuse. Elle a mal un peu partout. Et elle a vécu aussi, il faut le dire quand même, dans les conditions de l'époque. On vit dans des châteaux froids, humides, mal chauffés. Quand on voyage dans des litières cahotantes, sur des chemins qui sont complètement défoncés. Donc la vie est rude. Et le fait de mourir à l'âge de 36 ou 37 ans n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On a bien rempli sa vie d'une certaine manière.
Où est-ce qu'elle meurt ?
Elle meurt au château de Blois, où elle se trouve à ce moment-là, où elle a ses appartements, qu'elle a fait redécorer. D'ailleurs, toute la Renaissance italienne est présente à cet endroit, puisque ses deux époux, en guerroyant en Italie, ont fait revenir en France un certain nombre d'artisans, grâce auxquels elle a fait refaire les jardins, puis la décoration de ses châteaux.
Donc elle meurt chez elle ?
Elle meurt chez elle. À l'époque, on est chez soi et on meurt chez soi.
Cette mort, ce décès, est-ce que ça va avoir des conséquences particulières sur la paix qui avait été retrouvée ?
Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que le rapprochement qui a eu lieu de fait entre la Bretagne et la France, même si les gouvernements sont restés séparés, est-ce que ce rapprochement est mis en cause par la mort de Anne ? La question, donc, est celle de la succession. Qui hérite de la Bretagne ? Normalement, d'après le traité qui avait été signé, d'après le contrat de mariage, ça aurait dû être le deuxième fils. Le premier fils aurait hérité de la France, en tant que fils aîné, bien sûr, et le deuxième fils aurait hérité de la Bretagne, en tant que duc de Bretagne. Mais vous le savez, nous l'avons vu, Anne n'a que deux filles. Et de fait, c'est sa fille aînée qui va recueillir la Bretagne. Claude de France, devient la nouvelle duchesse. Donc, l'enjeu à la fin de la vie d'Anne et au moment où elle meurt, c'est le mariage de Claude. Celui qui épousera Claude deviendra duc consort de la Bretagne.
Qui est ?
Eh bien, ce personnage, puisque Anne n'a pas de fils, ce sera François d'Angoulême, c'est-à-dire le futur François Ier. François Ier épouse Claude de France. Et de ce fait, il va recueillir l'héritage breton, non pas tout de suite, mais il va convaincre progressivement sa femme de faire un testament en sa faveur. Et Claude va effectivement donner la Bretagne à son époux, le roi de France.
Louis XII survit à son épouse longtemps.
Louis XII survit un an à Anne. Il est très éploré quand elle disparaît, contrairement à tous les principes de l'époque. Louis XII va prendre le deuil, c'est-à-dire qu'il va rester enfermé dans ses appartements pendant 3 jours, ce qui ne se fait pas. Normalement, le roi de France ne porte jamais le deuil. Le roi de France, c'est la vie. Le roi de France doit continuer à vivre malgré la mort qui l'entoure. Il est un principe positif. Et donc, il ne doit jamais montrer qu'il est attristé par la mort des autres, pas même de sa femme. Or, Louis XII va contrevenir à cette règle et il porte le deuil de sa femme, ce qui prouve qu'il y avait vraiment une affection entre les deux époux. Là, c'est la preuve ultime, je dirais. Mais néanmoins, je vous rappelle qu'il n'a pas de fils. Donc, il va rapidement chercher une nouvelle épouse pour pouvoir enfanter un garçon. Et donc, il se remarie, effectivement, avec une jeune princesse anglaise, tellement jeune qu'on dit que, eh bien, elle l'a épuisée. Et qu'à force de vouloir donner un fils, eh bien, il meurt au mois de janvier, le 1er janvier 1515.
Qu'est-ce que la figure de Anne de Bretagne représente dans les années qui suivent? Est-ce qu'elle entre vraiment dans la postérité? Et c'est une figure qui va compter dans l'histoire?
C'est une figure qui compte d'abord pour la famille royale, puisqu'elle va être la grand-mère de nombreux rois, par la descendance de sa fille Claude. Et c'est aussi une figure de reine pacifique, puisque c'est par elle que le royaume est entré dans la paix. Donc elle a une figure extrêmement positive. En plus, elle a régné très longtemps, pendant deux règnes de rois. Donc pour certaines générations de cette époque, je vous rappelle, on l'a dit, que l'espérance de vie est très courte, certains n'ont jamais connu que la reine Anne. C'est la reine de toute une vie. Donc, elle a effectivement une image très positive auprès des sujets, une image positive dans sa famille, et son souvenir va perdurer pendant quelques générations. Et puis ensuite, elle tombe dans l'oubli, un peu écrasée, on va dire, par les grands personnages que seront Catherine de Médicis, Anne d'Autriche, qui seront des reines qui vont exercer encore plus le pouvoir qu'elle.
Claire Loewer, vous avez dit au début de nos entretiens que même si elle est respectée, elle est admirée, elle est aussi considérée par certains celle par qui l'indépendance de la Bretagne a disparu.
En effet, Anne avait fait une promesse à son père, « Jamais tu n'assujettiras la Bretagne à la France ». Au moment où son père meurt, elle fait cette promesse. Or, on peut se poser la question du mariage. Par ces deux mariages, effectivement, elle a initié le rapprochement de la Bretagne et de la France. Elle a mis fin à la guerre, mais elle a joué un jeu dangereux d'une certaine manière, puisqu'elle a permis ce rapprochement. Néanmoins, si elle avait eu des fils vivants, il est possible effectivement que les deux couronnes seraient restées séparées. En fait, le scénario qu'on avait envisagé, c'était le même que l'Angleterre actuellement, c'est-à-dire une couronne en Angleterre, une couronne en Écosse, qui peuvent éventuellement être sur la tête de la même personne, mais qui restent quand même des couronnes séparées. C'est ce qu'on avait envisagé pour la Bretagne et la France. Le grand malheur d'Anne a été de ne pas avoir de fils vivant, et c'est ce qui l'a empêché de mener à bien cette stratégie qu'elle avait élaborée.
Alors, elle est tombée un peu dans l'oubli. D'autres grandes figures féminines, vous l'avez rappelé, ont pris un peu le dessus. On la redécouvre, d'après vous ?
On la redécouvre d'abord au XIXe siècle, au moment où la Bretagne mène une espèce de combat culturel pour la reconnaissance de sa langue, de sa culture, de ses contes, de ses traditions orales. On se rend compte que, ah ben oui, il y a eu une reine de France qui était bretonne. Donc ça, c'est quand même un étendard formidable pour la région. Et donc, les intellectuels bretons de la fin du XIXe siècle la mettent beaucoup en avant pour montrer que c'était une reine sage. Il n'y a pas de scandale autour d'Anne. C'est une reine qui a bien gouverné, qui a été bonne pour ses sujets. Donc, on va effectivement beaucoup la remettre en avant. Et puis, la deuxième étape va se faire, je dirais, dans la deuxième moitié du XXe siècle, où, là aussi, alors que la Bretagne prend des caractéristiques culturelles de plus en plus affirmées, qui sont désormais reconnues par Paris, on peut évoquer cette figure sans faire scandale, d'une certaine manière. Anne fait partie de l'histoire, à la fois de la Bretagne et de la France. C'est quasiment une figure de consensus.
Quel est le lieu aujourd'hui où sa mémoire est la plus présente ? C'est Blois ?
Elle est très présente au château de Nantes, je pense. Surtout, c'est vraiment l'endroit, il y a toute une salle qui est dédiée à la reine Anne. Et en particulier, il y a un objet qui est très important pour la représenter. Alors, l'original se trouve dans un petit musée, le musée d'Aubray, qui n'est pas toujours ouvert. Et surtout, l'original n'est pas toujours exposé parce qu'il a été volé il y a peu de temps. c'est le cardiotaphe, comme on dit, c'est-à-dire le petit reliquaire dans lequel on avait mis son cœur après sa mort. Quand Anne est morte, on avait mis son cœur dans cette petite boîte en or. Et comme on ne pouvait pas toujours l'exposer parce que c'est un objet précieux et fragile, on a fait un fac-similé qui se trouve au château de Nantes et qui est au centre de la salle sur Anne de Bretagne. Donc je dirais que c'est certainement dans cette pièce que son souvenir est le plus prégnant, le plus frappant aussi.
Vous qui avez donc travaillé sur sa vie, qui, je le rappelle, publié un livre qui lui est entièrement consacré, quels sont les documents dont on dispose et qui permettent de retracer toute cette histoire, les documents les plus précieux ?
Les documents les plus précieux sur Anne, ce sont d'abord tous les documents qu'elle a signés de sa main. Nous avons sa signature, nous savons qu'elle participait véritablement au pouvoir par ce biais. Son nom apparaît sur les chartes, sur des documents dans des entrées de ville, par exemple, avec des monastères, quand il y avait des dons qui étaient faits, quand elle décidait d'un certain nombre de règles, de gouvernement. Nous avons également des documents sur elle qui ont été écrits par de nombreux contemporains, comme des ambassadeurs, par exemple l'ambassadeur de Venise l'a décrit assez souvent puisqu'il envoie des rapports au doge à Venise et donc il parle d'elle, de son comportement, comment elle est avec son mari, etc. Donc ce sont des documents assez proches, des témoignages directs. Et puis nous avons également, pour parler d'elle, tous les livres qu'elle a commandés. Elle a fait écrire des livres par des auteurs de son temps, des poètes. Et dans ces livres, d'une certaine manière, par la commande qu'elle passe, on comprend un petit peu ce qu'elle recherche et donc quel est son caractère et quelle est aussi sa volonté politique. Par exemple, elle fait écrire une vie des femmes illustres, c'est-à-dire une galerie de portraits de toutes les femmes qui ont compté à travers les âges.
Merci beaucoup Claire Lauer de nous avoir fait découvrir cette grande figure féminine à la jonction du Moyen-Âge et de la Renaissance, Anne de Bretagne. Je rappelle que vous lui consacrez une biographie chez Fayard qui s'intitule « Duchesse et Reine de France ». Merci beaucoup d'avoir été l'invitée de cette émission.
Merci à vous.
Et merci à Pierre-Henri Paget qui était à la technique.